Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo.
Bonjour à tous et bienvenue. On continue les interviews en direct du Palais Beaumont à Pau, face à la chaîne des Pyrénées. On est ravis d'accueillir Fabrice Rebu. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur commercial d'Egide Informatique,
oui,
qui fait partie du groupe
DL Software.
DL Software, voilà. En tout cas, vous venez avec une de vos nombreuses casquettes. Un petit rappel sur l'activité d'Egide Informatique.
Alors, Egide Informatique est un éditeur historique de l'administration de biens et du secteur tertiaire. Aujourd'hui, nous équipons à peu près un millier de structures immobilières. Enfin, pour ce qui concerne Egide, parce que plus largement, le pôle immobilier de DL Software, et d'ailleurs, je suis accompagné de trois autres sociétés du groupe, à savoir Crypto, Gestimo et AC3 Immo Facile. Aujourd'hui, nous équipons quelques milliers de clients et on a l'habitude de dire, et c'est vrai, que nous équipons environ 50% des structures immobilières de France.
Le futur de la gestion immobilière, effectivement, c'est une profession, Fabrice, qui s'est numérisée un petit peu, j'allais dire presque à marche forcée ces dernières années. En tout cas, on sent que ça avance à pas de géant. Ça y est, que l'immobilier est passé au 2.0.
Alors, oui.
Oui ou non? Oui ou non?
Alors, oui, ou bien assez. Sûr. Bien sûr, mais jamais assez. Moi qui ai vécu les 35 dernières années d'évolution informatique, bien évidemment, il y a des évolutions qui sont tout à fait incroyables. On ne rêvait pas d'avoir sur nos téléphones la capacité à regarder la télé, regarder l'état de ses biens immobiliers, de son compte bancaire et ainsi de suite. Maintenant, la profession est un peu à marche forcée imposée par le législateur. Imposé aussi, enfin proposé par les sociétés de services comme nous. Après, il faut que ces sociétés administrateurs de biens acceptent aussi d'aller vers la numérisation sur un certain nombre de sujets. Et c'est pas simple, c'est des projets d'entreprise qui sont parfois lourds, qui doivent être accompagnés par des structures comme les nôtres, en expliquant tous les avantages.
Donc vous êtes un éditeur de la PropTech, un membre de la PropTech. Comment ça se passe pratiquement? C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, Egide, ça leur permet de faire quoi?
Alors, Egide, comme je le disais, on est sur l'administration de biens classiques, donc syndic et gérance. On équipe les gros syndics, parfois avec de très gros portefeuilles. On est sur la gestion de biens aussi. Nous sommes aussi sur l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire que la particularité d'Egide, c'est d'équiper une centaine de foncières privées ou publiques. Parfois, dans nos gros clients, on compte la SNCF pour les boutiques dans les gares. Mm-hmm. On compte aussi le Tour Eiffel Asset Management, donc des grosses structures qui gèrent pour le coup leur patrimoine particulier, mais avec des exigences techniques et fonctionnelles qui sont bien différentes de l'administration de biens. Parce que ils sont plus axés sur le reporting, sur la mesure de l'activité, de la rentabilité des actifs.
D'accord. Justement, pour ceux qui n'ont pas franchi le pas encore, je pense qu'il en reste, est-ce que c'est simple? C'est-à-dire qu'on peut imaginer une certaine réticence des acteurs. Alors, je ne parle pas de la fracture numérique, mais c'est vrai qu'elle existe pour certains. Une réticence à se dire, j'avais un outil, il fonctionne, il n'est pas parfait, mais je sens qu'il atteint peut-être ses limites, mais j'ai peur de changer. Comment vous répondez à ça?
Alors, c'est mon quotidien depuis de très nombreuses années. C'est vrai que nous avons l'habitude de migrer 15, 20, 30 structures par an plutôt importantes. Tout le monde flippe parce que c'est jamais simple.
Ouais.
C'est-à-dire que ça nécessite de faire des audits préalables, de l'accompagnement. Les comptables ont peur de ne pas retrouver leur comptabilité, les gestionnaires de ne pas retrouver leurs documents. C'est des projets avec des rétroplannings qui sont souvent longs, de 3 à 6 mois, suivant la taille des cabinets. Nous avons les compétences techniques, mais une migration de logiciels ne peut se faire qu'en collaboration entre le cabinet qui nous a choisis et nos équipes.
Et bien sûr.
Et ça, c'est souvent ce qui est ignoré. On pense souvent que c'est magique. Bon, la magie en matière d'informatique...
On n'arrive pas le lundi matin avec un logiciel complètement mis à jour.
Ah si, on y arrive. Mais si on a bossé 15 jours, 3 semaines, 3 mois avant. C'est-à-dire que c'est une collaboration et c'est ce que les gens parfois ne s'expliquent pas.
Oui.
C'est que là, il y a fatalement une vraie collaboration entre la société de service qui récupère les fichiers, et le cabinet qui a choisi de prendre cette société de service. Mais croyez bien que c'est un exercice qui n'est jamais simple et jamais anodin.
Voilà, jamais simple, jamais anodin. Et pourtant, on sait qu'il faut le faire, on sait qu'il faut s'équiper. Après, il faut parler aussi des bénéfices. C'est sûr, c'est un effort à faire et peut-être financier aussi un investissement.
Bien sûr.
Mais ensuite, la mise à jour, effectivement, tout est beaucoup plus simplifié et on va gagner du temps.
Le choix de changement, il est souvent lié à un moment où le cabinet, en fait, a un accroissement significatif de son activité et a besoin un instant d'être plus efficient sur tout ce qui n'est pas les tâches à valeur ajoutée, automatiser par exemple les process d'encaissement, d'émission de factures, d'intégration de factures et ainsi de suite. Et donc le bénéfice il vient mais quelques mois après le changement de logiciel, parce que déjà il faut qu'on passe la période de la fracture intellectuelle du changement de logiciel,
oui,
que les gens au sein du cabinet s'approprient justement cette nouvelle informatisation. C'est fait de petites victoires et ensuite, effectivement, on élabore un plan pour mettre en place tous les modules à valeur ajoutée qui ont fait que le client vous avait choisi. Mais on fait un plan de mise en place graduel. On ne fait pas la révolution d'un seul coup, sinon on perd tout le monde.
C'est sûr. Donc l'idée, c'est d'accompagner. Est-ce qu'une fois que c'est mis en place, justement, il y a aussi des modules d'accompagnement sous forme, je ne sais pas, de webinaires, de tutoriels ou peut-être une... J'allais dire une hotline, c'est un peu ringard, mais un numéro où on peut le faire.
Il y a deux ou trois axes. Il y a toujours un poste formation dans ce type. Alors, suivant la taille des cabinets, il y a trois ou quatre grands temps. L'analyse, c'est-à-dire on scrute un petit peu les fichiers, comment est organisé le cabinet afin de mettre en place les fichiers de paramétrage. Ensuite, à la mise en place, on fait la formation, mais concomitamment, on fait une mission d'accompagnement pour lancer les grands traitements un peu importants du truc. Et après, on fait un suivi sur le temps. Et bien évidemment, il y a une hotline. Ça n'est pas ringard, la hotline. Si ce n'est que maintenant, on passe par des outils de relations clients où les clients sont en capacité de déposer leurs demandes directement sur des outils de ticketing sans avoir à attendre les heures d'ouverture. Mais oui, il y a toujours un accompagnement et c'est obligatoire. Ouais. Ça ne peut pas faire autrement.
Je traduis parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, le ticketing. Ça fait 35 ans que vous baignez là-dedans, mais c'est en fait un ticket, l'ouverture d'un ticket en informatique.
D'un ticket de
c'est
demande,
ça, c'est une demande, en fait, c'est une requête. Vous pouvez l'envoyer à 21h, 22h, les séries sont
bien
fermées.
Sûr.
Mais le lendemain, c'est archivé
après,
et
c'est
on
traité.
Répond en 24
après, c'est
et en
traité. Ouais. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que le point important dans la mise en place d'un logiciel, c'est suivi de formation. C'est souvent ce qui est mal fait. Alors, à cause du client, à cause de la société de service, peu importe les torts, mais un logiciel ne se suffit pas à lui-même et ça nécessite une formation continue pour toujours être au bon niveau d'utilisation et pour éviter les déperditions de savoir-faire.
Bien évidemment. Une dernière question, Fabrice, c'est concernant ce congrès UNIS, 13e du nom, aujourd'hui à Pau. Je crois que vous avez participé à pratiquement 13 sur 13.
Tous.
L'intérêt pour vous de participer à cet événement?
Alors déjà, l'UNIS, ce sont pour nous des partenaires historiques. J'ai la chance d'équiper un certain nombre des grands noms de cette fédération. J'apprécie particulièrement l'accueil qui nous est fait ici à Pau. L'équipe de Julie, qui est la présidente ici de la Chambre UNIS, a fait un travail formidable. On a été super bien accueillis hier à la halle de Pau pour la soirée exposant. En plus, on a gagné au football. Donc,
voilà.
c'est magique.
C'est bien organisé.
C'est là où on voit une belle organisation. Et puis, non, c'est un très bel accueil dans un lieu magnifique. Et bien évidemment, on continuera à suivre nos partenaires de l'UNIS dans les années futures.
Et en plus, vous êtes doublement content puisque vous êtes aussi le régional de l'étape, si bien
compris. Oui, ce week-end, je vais aller voir la famille. C'est agréable de pouvoir être pas loin, oui.
Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas un bon congrès, un bon week-end également. Et puis, on se retrouvera avec plaisir sur Radio Immo.
Merci beaucoup, Fabrice Revue.
À très bientôt.
Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Immo.